Au sommaire de ce journal, l'Iran a pleine autorité sur les fonds débloqués et les dépenses là où il en a besoin, a insisté le président Raïsi. Au moins deux colons israéliens ont été blessés à la suite d'une opération de tir palestinienne en Cisjordanie occupée. Et puis au Yémen, le gouvernement du Salut national donne la dernière chance aux agresseurs. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le processus de transfert des avoirs iraniens récemment dégelés en Corée du Sud devrait être achevé dans les prochains jours. Le président Ebrahim Raïsi a réaffirmé que la République islamique avait l'autorité sur la manière de dépenser les fonds. Raïsi affirme que l'argent appartient au peuple et au gouvernement iranien et qu'il sera dépensé partout où il sera nécessaire. Il a fait ses commentaires dans une interview exclusive avec NBC News. Le département d'État américain a confirmé que le secrétaire d'État Antony Blinken avait signé une dérogation autorisant le transfert de fonds gelés iraniens depuis la Corée du Sud vers le Qatar. Les actifs iraniens avaient été bloqués par Séoul en 2018 en raison des sanctions extraterritoriales américaines. Les médias américains avancent que cette dérogation fait partie d'un accord plus large entre l'Iran et les États-Unis qui comprend également l'échange de prisonniers. Téhéran nie tout lien entre les deux affaires. Dans son discours, le président iranien a déclaré que les 5 détenus américains qui devraient être échangés contre 5 Iraniens emprisonnés illégalement aux États-Unis sont en pleine santé. Le président iranien a également évoqué les émeutes qui ont duré plusieurs mois et qui ont éclaté en Iran en septembre dernier. Ebrahim Raïsi a accusé les États-Unis et certaines puissances européennes et occidentales d'alimenter les troubles. Les émeutes ont éclaté après la mort d'une jeune Iranienne à l'hôpital quelques jours après s'être effondrée dans un commissariat de police. Une enquête médico-légale a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait été battue au poste de police et attribué sa mort à un problème de santé sous-jacent. L'Iran et l'Irak ont exprimé leur volonté de mettre en œuvre un accord de sécurité mutuelle visant à éradiquer le terrorisme de la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et son homologue irakien Fouad Hussein ont réitéré cet engagement lors d'une conférence de presse conjointe ce mercredi à Téhéran. Amir Abdollahian a déclaré avoir évoqué l'accord de sécurité signé entre les deux pays début 2023. Il a également salué les efforts de Bagdad pour relocaliser et désarmer les terroristes basés proche de la frontière irako-iranienne. Le plus haut diplomate irakien a déclaré que Bagdad ne permettrait pas aux terroristes d'attaquer l'Iran en utilisant les territoires irakiens. Il a également noté que l'accord sera pleinement mis en œuvre d'ici quelques jours. Le ministre iranien de la Défense a réitéré que son pays n'accepterait aucun changement géopolitique dans la région. Le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani a émis cet avertissement après qu'une délégation iranienne de haut rang de la Défense se soit rendue en Azerbaïdjan pour des entretiens avec des autorités compétentes. Il a toutefois assuré qu'aucune guerre n'éclaterait dans la région. Il a souligné que la position de l'Iran sur les développements régionaux est très claire. Cela survient dans un contexte de tensions croissantes entre la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Iran a maintenu sa neutralité dans le conflit tout en soulignant que le territoire contesté devrait être restitué à leur véritable propriétaire. L'Iran a également mis en garde contre tout mouvement militaire le long des frontières du pays. L'Australie a imposé de nouvelles sanctions contre un certain nombre de personnes et d'entités iraniennes pour ce qu'elle appelle des violations des droits de l'homme. La dernière série de restrictions comprend des restrictions financières et des interdictions de voyage. La chaîne d'information iranienne de langue anglaise Press TV fait partie des entités placées sur la liste noire. Il s'agit de la 4e série de sanctions anti-iraniennes imposées par l'Australie depuis décembre 2022. L'Iran a toujours critiqué les sanctions illégales imposées principalement par l'Occident, affirmant qu'elles portent gravement atteinte aux droits de la nation iranienne. Téhéran a fustigé à maintes reprises l'Occident pour avoir adopté des approches à double standard sur les questions des droits de l'homme ainsi que de la liberté d'expression. Au moins 2 colons israéliens ont été blessés à la suite d'une opération de tir palestinienne en Cisjordanie occupée. La fusillade a eu lieu dans la ville d'Ouavara, au sud de Naplouse. Un Palestinien a ouvert le feu sur des colons israéliens alors qu'ils circulaient dans la zone. Les médias israéliens affirment que l'un des blessés est dans un état critique. La brigade Al-Fajr a revendiqué la responsabilité de l'opération. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a salué l'opération, la qualifiant de partie de la lutte visant à expulser le régime occupant de la terre palestinienne et à défendre les lieux saints. La Cisjordanie subit depuis plusieurs mois des raids presque meurtriers des troupes du régime israélien dans les quartiers palestiniens. Les Palestiniens mènent des opérations de tir ou des attaques au couteau contre des Israéliens en représailles aux atrocités du régime. Le gouvernement du Salut national du Yémen a averti la coalition dirigée par l'Arabie saoudite que la période actuelle est la dernière chance pour elle de prendre des mesures pour résoudre la crise dans le pays. Le premier ministre Abdulaziz bin Abtour a déclaré que le Yémen attendrait jusqu'en octobre avant de prendre une décision et des mesures appropriées face à cette situation critique qui le touche. Ces remarques font écho à celles du leader du mouvement populaire et révolutionnaire Ansar Allah, Abdulmalik Al-Houssi. Bin Abtour a déclaré que les gouvernements précédents du Yémen dépendaient fortement des revenus pétroliers et gaziers qui représentaient 75% de leur budget. Il a noté que toutes les sources de revenus sont actuellement contrôlées par les forces d'occupation. Il a ajouté que la coalition devrait prendre des initiatives et sortir de la guerre. L'Arabie saoudite a lancé une guerre contre le Yémen en 2015. La guerre a entraîné la mort de dizaines de milliers de Yéménites et a transformé le pays en théâtre de la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Pyongyang, aux côtés de Moscou dans la lutte contre l'impérialisme. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un alors que les deux pays élargissent leur coopération bilatérale sur divers plans. Poutine et Kim se sont rencontrés mercredi 13 septembre lors d'un sommet au centre spatial Vostochny Cosmodrome dans l'oblast de l'Amour à l'extrême est de la Russie. Les deux hommes se sont serrés la main pendant 40 secondes à l'extérieur du cosmodrome de Vostochny. Alors qu'ils se saluaient sur le site, Poutine s'est dit très heureux de voir de nouveau Kim. Le dirigeant nord-coréen a quant à lui remercié Poutine d'avoir invité la délégation nord-coréenne malgré son emploi du temps chargé. Kim Jong-un a remercié Vladimir Poutine pour son accueil et souligné que les relations avec la Russie étaient de la plus haute importance pour Pyongyang. « Je suis sûr que nous resterons unis pour lutter contre l'impérialisme », a-t-il ajouté avant que l'entretien ne débute. Le président russe a cité la coopération économique, les questions humanitaires et la situation dans la région parmi les points à l'ordre du jour de leurs entretiens. À la question de savoir si la Russie aiderait Kim à construire des satellites, Poutine a répondu « C'est pour cela que nous sommes venus ici. Le dirigeant de la République populaire démocratique de Corée montre un grand intérêt pour l'ingénierie des fusées. Ils essaient également de développer l'espace. » Après avoir visité des installations du cosmodrome de Vostochny, notamment un atelier de l'assemblage de fusées russes Angara de nouvelle génération, les deux hommes ont mené des discussions qui se sont achevées après plus de 2 heures. Les experts estiment également que le dirigeant nord-coréen cherche à attirer l'assistance technique de la Russie pour développer des satellites spatiaux et militaires. La réunion qui, selon Moscou et Pyongyang, vise à élargir la coopération dans divers domaines est étroitement surveillée par les États-Unis et leurs alliés. Les inquiétudes internationales sur un éventuel accord d'armement entre Moscou et Pyongyang se multiplient. Washington a affirmé disposer de renseignements indiquant que les négociations entre Poutine et Kim sur un accord sur les armes avançaient rapidement. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a allégué que le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, aurait tenté de convaincre Pyongyang de vendre des munitions d'artillerie à la Russie lors de sa récente visite en Corée du Nord. Le Kremlin a déclaré que la visite de Kim porterait sur les relations bilatérales, la situation régionale et internationale. Le dirigeant nord-coréen a indiqué que sa visite en Russie mettait en évidence l'importance stratégique des liens entre Pyongyang et Moscou, ont rapporté les médias d'État nord-coréens. Kim a déclaré à Poutine que son pays offrait son soutien total et inconditionnel au combat sacré de la Russie pour défendre ses intérêts de sécurité. Il a déclaré que Pyongyang continuerait à se tenir aux côtés de Moscou sur le front anti-impérialiste. Récemment, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie agirait toujours dans son intérêt national. Les intérêts de nos deux pays sont importants pour nous et non les avertissements de Washington, a déclaré Peskov, cité par les médias russes. Poutine et Kim se sont rencontrés pour la dernière fois en 2019 dans la ville de Vladivostok, à l'extrême est de la Russie, à environ 680 km au nord de Pyongyang, après l'échec des négociations bilatérales sur la dénucléarisation avec le président américain de l'époque, Donald Trump. Quelques heures seulement avant la rencontre du dirigeant Kim Jong-un avec le président Vladimir Poutine en Russie, la Corée du Nord a tiré deux missiles balistique au large de sa côte est. Il s'agit du premier lancement de ce type à avoir lieu alors que Kim était à l'étranger pour un voyage rare, ont indiqué les analystes. Fascinant, un lancement sans Kim Jong-un dans le pays, une première, a écrit l'analyste américain Ankit Panda sur X. À partir de 2019, Kim Jong-un a cessé d'assister à chaque lancement annoncé et parfois sa présence a été délibérément masquée, a écrit Pandit. Il existe un précédent pour les lancements sans Kim, mais pas sans Kim dans le pays, a-t-il dit.